Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Total qui multiplie ses bénéfices par 23 en un an. Le bras de fer autour de la pêche, et c'est au tour de Jean Castex de mettre la pression. Et puis les catastrophes climatiques nous coûtent de plus en plus cher, trois fois plus aujourd'hui qu'il y a 40 ans.
Nos deux débats du jour, faut-il imposer des quotas de femmes dans les directions des entreprises? Est-ce vraiment la solution? Et à 12h50, ça peut vous étonner, ça peut faire sourire. Et si vous faisiez enterrer avec votre chien ou votre chat, ce sera bientôt peut-être possible avec une loi imaginée par un député que nous recevrons, Monsieur Dombreval.
Notre question du jour sur RTL.fr, faut-il imposer des quotas de femmes dans les directions d'entreprise? Vous répondez non massivement à 70%. La météo du jour, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Il fait beau et doux cet après-midi.
Et oui, on sera souvent 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, de 14 à 20 degrés au nord, de 18 à 23 au sud. Vous l'avez dit, plein soleil sur la majeure partie du pays. C'est plus mitigé avec un ciel chargé et quelques gouttées du vent sur la Bretagne, le golfe du Lion avec un coup de tonnerre possible, et entre la Corse et les Alpes du Sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
En plein débat autour du pouvoir d'achat et de la flambée des prix de l'énergie, voilà donc des chiffres qui vont sans doute faire réagir. Total affiche des bénéfices astronomiques. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
C'est simple, ils ont été multipliés par 23 en un an.
4 milliards 600 millions d'euros de bénéfices nets au troisième trimestre. On est loin, très loin des 200 millions d'euros engrangés à la même période l'an dernier. Alors il faut relativiser. En 2020, les rentrées d'argent étaient extrêmement faibles à cause du Covid. C'est le troisième trimestre 2019 qu'il faut prendre comme référence pour se rendre compte de la performance de Total. Par rapport à une année normale donc, le bénéfice du géant pétrolier est en progression de 66% grâce notamment à la remontée des cours des hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Cette prouesse est d'ailleurs partagée par d'autres mastodontes du secteur comme Shell ou le norvégien Equinor. Conscient que ces rentrées monstres d'argent peuvent choquer au moment où les Français s'étranglent en découvrant les prix à la pompe ou leurs factures de chauffage, le PDG du groupe Patrick Pouyanné prévient. Total, rebaptisé Total Energy, prévoit un plan d'investissement de 3 milliards d'euros dans l'électricité et le renouvelable. 200 millions d'euros seront notamment débloqués pour équiper les stations d'autoroute du groupe de bornes de recharge rapide pour les voitures électriques.
Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Dans l'actualité également, ce bras de fer entre Français et Anglais qui se poursuit autour de la pêche.
Et après l'ultimatum de Paris, Londres appelle ce matin au calme et à la désescalade. La balle est dans le camp des Britanniques. Voilà ce que répond Jean Castex.
L'escalade n'est pas du fait de la France. L'escalade n'est pas du fait de la France. Les Britanniques doivent respecter leurs engagements. Mais comprenez, et nous l'avons dit à la Commission européenne depuis plusieurs mois, que nous soyons intransigeants sur le fait, pour nos pêcheurs, que les engagements souscrits soient tenus. Donc je ne demande pas mieux qu'une désescalade intervienne, que le gouvernement de Londres a toutes les clés pour la réaliser. Nous sommes ouverts en permanence aux discussions. Matin, midi et soir, les ministres sont sur le pont, mais en même temps, je veux dire au gouvernement britannique que nous veillerons au respect de nos intérêts et au respect de la parole donnée.
Jean Castex en déplacement ce matin à Lorient. Voyons à présent ce qu'en pensent les premiers concernés, les pêcheurs, direction Boulogne-sur-Mer, où bon nombre d'entre eux sont privés de licence, la plupart d'ailleurs. Ça fait 10 mois qu'ils attendent, Franck Hanson.
Oui, et sur le quai Gambetta, à l'arrivée des bateaux, les prises ont nettement diminué depuis que ces pêcheurs sont privés d'aller dans ces eaux anglaises juste en face. À bord de son filayeur, Laurent Merlin attend toujours cette fameuse licence. Il était temps pour lui que les autorités bougent.
Oui, il était temps, ouais, ça fait du bien d'être soutenu, mais bon, il y a un peu tard. Hein. Bon, au moins, ils vont peut-être réfléchir à dire, oh là mince, les Français commencent à s'y mettre. Les Anglais vont pouvoir attendre leur viande ou leur bière pour Noël. Là, l'accord est signé, puis derrière notre dos, ils nous disent, bah non, vous y allez pas. Plus de casier dans les eaux anglaises, c'est un calvaire. Ouais. On voudrait avoir le papier, parce que c'est l'époque que normalement, le poisson, il passe là-bas pour nous. Là, la mer en face de Boulogne, la mer, elle est vide.
Au marché aux poissons, derrière leurs étalages, les femmes et les proches de marins s'inquiètent également de voir cette situation pourrir. Comme Valérie Geoffrey, la sœur du capitaine.
Il faut leur mettre la pression, bien sûr, c'est important. Si les petits bateaux, je veux dire, il faut qu'ils vivent, là, parce que Excusez-moi du terme, ils sont en train de crever. Les pêches, là, on n'a plus rien du tout sur les étals. Nous, on a eu le ministre ici de la mer au printemps. D'ici 5 jours, vous aurez vos licences. Nous sommes fin octobre. Il faut qu'on travaille.
Et ces Boulonnais, bien patients jusqu'à aujourd'hui, comptent bien eux aussi lancer des actions en mer s'ils n'obtiennent pas satisfaction.
À Boulogne-sur-Mer, le reportage pour RTL de Franck Hanson. Au procès du meurtre de Mireille Knoll, à présent, parole aujourd'hui au parti civil. L'un des deux fils de l'octogénaire est venu à la barre raconter comment il avait appris la mort de sa mère, Guillemette Franquet.
Oui, Daniel Knoll a parlé jusqu'au bout, sans larmes, la voix grave. Mais dans ses mots, sa colère est partout. « Je regrette d'être là », a commencé le fils de Mireille Knoll. « C'est horrible, mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé. » Puis Daniel Knoll raconte la joie de vivre de sa mère, le café liégeois qu'elle aimait prendre le dimanche au bois de Vincennes. Son caractère naïf et indépendant, il soupire. Comment deux personnes ont pu tuer un ange? Il évoque l'amitié qu'avait sa mère pour l'un des accusés, Yacine Mioub. La vieille dame continuait à le voir, bien que ses enfants essayent de l'en empêcher. Daniel Knoll s'indigne. Ce monstre la connaissait depuis ses 8 ans, il sait qu'il n'y a rien à voler chez maman. Les mains accrochées à la barre, il raconte le soir du drame, l'incendie dans l'appartement de sa maman, comment il a appris 2 jours plus tard qu'elle avait été lardée de coups de couteau et brûlée. Ça nous a fait penser au camp de concentration. Puis à l'intention des accusés, sans les regarder, il conclut « J'espère que ma mère va les hanter toute leur vie ».
Guillemette Franquet devant la cour d'assises de Paris pour RTL.
Eux ont perdu leur fille il y a 4 ans jour pour jour. Les parents d'Alexia Daval prennent la parole aujourd'hui sur RTL.
C'est la première fois qu'ils s'expriment depuis le procès de leur gendre. Entretien exceptionnel avec Jean-Alphonse Richard qui sera à découvrir tout à l'heure dans l'heure du crime à partir de 14h30 sur RTL. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot racontent notamment comment, jusqu'au bout, Jonathan a tout fait pour jouer les veufs et pleurer.
On a choisi quand même le monument funéraire avec lui, le cercueil, la couleur de l'intérieur du cercueil.
C'est lui qui choisit tout.
C'est lui qui a tout choisi. Il a fait emmener le chat Happy sur le cercueil d'Alexia pour que Happy se sente bien. Il nous disait qu'elle était toute bizarre et qu'il faudrait que Happy sente Alexia à travers le cercueil pour qu'elle soit bien.
Les parents d'Alexia Daval avec Jean-Alphonse Richard, rendez-vous donc tout à l'heure dans l'heure du crime à partir de 14h30. 2 semaines après la fin du remboursement des tests anti-Covid, les Français continuent à se faire dépister. 2 300 000 tests la semaine dernière. On était à 3 millions par semaine en moyenne avant. Ça fait donc 700 000 de moins, mais ça reste suffisant pour mesurer l'évolution de l'épidémie, Agathe Landais.
Oui, tant qu'on est autour de 2 millions de tests par semaine, c'est en fait un niveau acceptable pour pouvoir suivre l'épidémie. C'est ce qu'estiment les autorités de santé. Avec le déremboursement des tests, cette baisse était attendue. Elle n'a pas trop touché les laboratoires. En revanche, les pharmacies ont vu leur nombre de tests chuter de 40% en une semaine. Elles sont passées de 500 000 tests par jour environ à 150 000 par jour. C'est surtout dû à la baisse des tests dits de confort, explique Gilles Bonnefonte de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
On estime à peu près à un quart de tests qui sont des tests payants, donc pour des personnes qui ne sont pas vaccinées ou sont en cours de vaccination et qui ont besoin d'avoir un pass sanitaire. C'est quand même important de continuer à avoir le contact avec ces personnes.
Là où la baisse est la plus marquée, c'est chez les jeunes actifs, les 26-40 ans. Mais la chute du dépistage concerne toutes les tranches d'âge, sauf évidemment les mineurs, pour qui les tests restent gratuits.
Explication signée Agathe Landais pour RTL. Autre épidémie qu'on surveille de près, c'est la grippe. Déjà quelques cas, mais cela reste modéré. Principale région touchée pour l'instant, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Hauts-de-France. Tout le pays, en revanche, reste en alerte épidémique à la bronchiolite, sauf la Bretagne et la Corse. Les hospitalisations ont progressé de 29% en une semaine.
À 3 jours du coup d'envoi de la COP26, les assureurs ont chiffré le coût des catastrophes naturelles en France.
Bilan, 3 milliards d'euros par an. C'est 3 fois plus que dans les années 80, Virginie Garin.
Oui, ce coût devrait doubler dans les 30 ans qui viennent, selon les assureurs. Alors, ils font un lien précis avec le réchauffement climatique. Pour eux, un tiers de ces sinistres sont imputables au climat, avec des régions plus touchées que d'autres. Pour les sécheresses et incendies, le sud-ouest, les Bouches-du-Rhône. Pour les inondations, c'est partout. Et elles devraient coûter 50 milliards à la France dans les 30 prochaines années.
Mais alors, à l'arrivée, ça veut dire que ça va nous coûter plus cher à nous assurer ?
On comprend que oui, sans doute. Mais les assureurs pensent pouvoir limiter cette hausse en améliorant la prévention, construire autrement, se protéger en cas de tempête, ne pas aller chercher sa voiture au 4e sous-sol, par exemple. Florence Lussmann est la présidente de la Fédération française des assurances.
Il y a d'autres mesures. Avant de penser à l'augmentation des tarifs, il faut d'abord parler de prévention. Nous formulons, nous, une proposition très concrète qui serait d'organiser des mises en situation au plan local, qu'on pourrait appeler des journées japonaises, puisque c'est comme ça que ça se fait au Japon, pour aider nos concitoyens à avoir les bons réflexes en cas de manifestation d'un péril naturel majeur.
Oui, au Japon, la prévention des risques des catastrophes naturelles s'apprend à l'école et la population s'entraîne chaque année.
Peut-être bientôt donc des journées japonaises. Merci beaucoup Virginie Garin. Et puis Pascal, vous le savez, ce sont les vacances scolaires, celles de la Toussaint. Bien figurez-vous que certains petits chanceux skient. Et oui, en plein mois d'octobre, bientôt novembre. C'est le cas aux Deux Alpes. Alors certes, il faut grimper à 3000 mètres, mais à l'arrivée, la récompense est là.
C'est le bonheur, c'est cool. Mais moi, ça fait 2 ans que je n'avais pas retourné sur les pistes. C'est top. En plus, la neige, ça va, elle n'est pas trop dure. Le rêve.
Et ça fait vraiment du bien. Il fait beau, il y a de la bonne neige et c'est vraiment top.
Les sensations, là?
Bah, c'est un peu rouillé. Faut que ça revienne un peu, mais ça revient progressivement. Donc au top. Le snowpark est vraiment bien. Donc vraiment génial.
C'est sympathique de revenir faire 2-3 descentes avec la neige. Ça fait du bien de revenir sur les pistes.
C'était inespéré depuis le temps qu'on attendait ça. C'est vraiment cool.
Je suis très heureux de reprendre le ski, reprendre un peu les bases. La neige, elle est parfaite. Franchement, je m'éclate. Ce sont des très très bonnes vacances.
Oh, ça fait plaisir toujours d'entendre la musique des bronzés.
Et on rappelle que l'année dernière, les pistes...
Il n'y avait pas eu de ski.
Les remontées étaient fermées durant toute la saison. Faut-il imposer des quotas de femmes dans les directions des entreprises? Est-ce vraiment la solution? Les sénateurs ont adopté une proposition de loi pour plus d'égalité cette nuit. Nous en parlons dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Que pensez-vous des femmes qui travaillent?
Ah bien, les femmes qui travaillent, si elles ont besoin de ça pour aider le ménage, d'accord. Mais une femme qui reste chez elle, c'est aussi bien.
Oui, c'est pas une mauvaise idée, ça rapporte de l'argent au mari.
Je suis pas d'accord. Parce que quand il rentre un monsieur, il trouve tout prêt. Son linge, son lit, sa cuisine, ses enfants.
C'est pas une mauvaise chose. Il faut les occuper parce que s'ils restent à la maison, hein, après ça court.
Alors ces mots, ce n'était pas il y a 1000 ans, hein. Non, c'était en 1977, il y a 44 ans, forcément.
C'est
ça
des
nous
vrais
fait
gens,
courir.
C'est des comédiens.
Ce sont des vrais gens de 1977. Heureusement, depuis, on a fait des progrès. Aujourd'hui, 70% des femmes travaillent, 70% des 15-64 ans, mais elles touchent toujours moins et occupent des postes moins élevés dans la hiérarchie. Deux chiffres, on compte seulement 26% de femmes dans les instances dirigeantes et une seule femme dirige une entreprise du CAC 40. Les sénateurs ont donné hier soir leur feu vert à une nouvelle proposition de loi pour plus d'égalité. L'idée, c'est d'imposer 30% de femmes parmi les cadres dirigeants d'ici à 2027, 40% d'ici 2030. Et les entreprises qui ne s'y plieraient pas devront payer une amende équivalent à 1% de la masse salariale. Bonne idée ou pas, faut-il absolument en passer par là? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Marlène Ribeiro.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes directrice exécutive chez Michael Page, un cabinet de conseil en recrutement de cadres. Vous avez donc la double casquette, si j'ose dire. Vous êtes dirigeante vous-même et vous recrutez des cadres. C'est une bonne idée ou pas, cette histoire de quota?
Bon, de mon point de vue, c'est une bonne idée, une très bonne idée, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez donné le chiffre. On est sur 26% de femmes aujourd'hui sur les instances dirigeantes. Donc, une sur quatre. Donc, une personne sur quatre dans les instances dirigeantes qui est une femme. Donc, qui n'est pas la représentativité. Et la deuxième chose, c'est qu'on, y a le sentiment d'avoir des progressions qui sont très lentes sur l'accession des femmes sur ces postes-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a maintenant aussi du recul sur une loi qui a été similaire, qui est la loi Copé-Zimmermann, qui est une loi qui a maintenant 10 ans et qui avait déjà imposé des quotas sur des conseils d'administration et des conseils de surveillance. Et aujourd'hui, on est arrivé à une mixité et on est même vraiment le bon élève de l'Union européenne grâce à cette loi. Donc, on a déjà finalement l'expérience d'une loi précédente. On a le sentiment d'avoir finalement une stagnation voire très peu de progression dans certaines entreprises. On a fait une étude cet été avec l'IFOP, Michael Page, sur de demander à des cadres quelles étaient leurs sensations. Et un cadre sur deux a l'impression que ça n'avance pas assez et que c'est en stagnation.
Alors ça, on est tous d'accord, mais voilà. Est-ce que certains ne risquent pas de se dire si cette femme, elle est là où elle est, c'est parce qu'elle est une femme, parce qu'il y a ses quotas? Vous voyez ce que je veux
alors
dire?
Alors on a posé la question à des hommes de savoir sur des hommes dirigeants, des hommes managers, s'ils avaient le sentiment que les femmes qui étaient arrivées à des hauts postes étaient illégitimes. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que la très grande majorité des hommes trouvent qu'elles sont très compétentes et qu'elles ont même des compétences. Elles ont certainement eu beaucoup plus d'embûches et donc beaucoup plus compétentes que leur père pour arriver à ces postes-là. Donc on n'a pas du tout, pour l'instant, on ne voit pas de sentiment d'illégitimité. Après, je peux comprendre que certaines personnes se posent la question si finalement ces quotas vont permettre à des femmes qui n'ont pas de potentiel d'évoluer. Aujourd'hui, la première étape, c'est de repérer les femmes à potentiel dans les organisations des entreprises et de mettre les actions pour que ces femmes puissent accéder comme un homme à des comités de direction et des comités exécutifs.
Ce qui reste fascinant, évidemment, c'est le CAC 40. Une seule femme dirige une entreprise du CAC 40, ce qui est absolument incroyable. Mais là, je vais m'adresser à la conseillère en recrutement de cadres. Oui. Est-ce que vous sentez parfois des réticences chez vos clients lorsque vous recrutez des cadres pour une entreprise d'engager une femme ?
Alors, il peut y avoir ce genre de sentiment. Alors, souvent, on en discute assez librement. Alors c'est les entreprises, enfin c'est ceux qui recrutent, mais également les managers. Ils peuvent avoir un stéréotype d'une femme qui est un peu moins disponible, qui est un peu
moins
de flexibilité.
C'était ça le sens de ma question. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Pour des cadres de direction où on doit travailler peut-être 70 ou 80 heures par semaine, est-ce que votre client se dit une femme est moins disponible qu'un homme pour dire les choses clairement ?
Ils peuvent se poser cette question-là. Certains se posent. Il y a des stéréotypes encore sur des sujets de flexibilité. Et quand vous abordez le point avec une femme ne va pas du tout vous proposer comme ça, ou elle ne va pas du tout vous dire qu'elle n'est pas disponible pour des déplacements ou pour de la flexibilité. Donc, il peut y avoir des stéréotypes, des personnes qui pensent à la place des femmes au lieu de poser la question à des femmes. Donc oui, ça reste un enjeu majeur que de...
Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
On discute avec le client, c'est de lui demander pourquoi...
Mais est-ce que le client, par exemple, il dit, est-ce que cette femme est mariée? Est-ce que cette femme a des enfants? Est-ce qu'il pose des questions? Pardonnez-moi de poser ce type de questions, mais est-ce que ça arrive dans la conversation, sans qu'il en tire une conclusion devant vous, d'ailleurs? Mais est-ce qu'il y a ce type de questions pour dégager le profil de la femme qu'il va recruter?
Non, ça va pas jusqu'à ces caricatures-là. On est plus sur... poser la question de la disponibilité, de la flexibilité. Donc, on peut avoir ces questions-là.
Mais très honnêtement, on peut vous demander l'âge de vos enfants. Quand vous êtes une femme aujourd'hui, que vous passez un entretien, ça arrive quand même régulièrement qu'on vous pose cette question-là, non ?
C'est interdit et c'est très très rare. Mais
c'est rare.
Ça reste quand même rare. Ça reste quand même rare quand même que les employeurs aillent sur ce genre de questions. Bien évidemment, vous en aurez toujours qui poseront ce type de questions et qui pourront tirer certaines conclusions. Mais on est quand même, majoritairement, on avance dans le bon sens. Il y a beaucoup moins de questions qui sont posées aux femmes sur ces sujets. Mais néanmoins, sur la partie flexibilité, congé maternité, il peut y avoir des réticences et des questions. Et après, c'est à nous tous de discuter pour combattre les stéréotypes. Bien évidemment.
Merci Madame Ribeiro. Effectivement, il faut combattre ces stéréotypes. Et je rappelle à chaque fois ce chiffre, cette statistique incroyable, invraisemblable. Une femme simplement dirige une entreprise du CAC 40. Il est 12h50. Un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Pourra-t-on bientôt être enterré avec son animal de compagnie? Évidemment, quand c'est vous qui mourrez, si c'est l'animal qui meurt, vous n'allez pas aller avec lui dans la tombe.
Non, pas vivant.
Hein, nous sommes d'accord.
C'est une ça fois va que bien
vous êtes,
vous. Hein.
C'est une fois que vous êtes mort. 12h51, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'est un générique qui parle à tous les amoureux des bêtes. 30 millions d'amis, bien sûr. Eh bien, figurez-vous qu'on va peut-être bientôt pouvoir se faire enterrer avec son chien ou son chat. Bonjour Loïc Dombreval.
Bonjour.
Vous êtes député LREM des Alpes-Maritimes et vous vous apprêtez à déposer une proposition de loi en ce sens. Alors, ça peut paraître assez surprenant. Moi, quand j'ai lu ça ce matin dans Var Matin, j'ai été surprise. C'est une vraie demande de vos administrés ?
C'est une demande qui va croissante. Aujourd'hui, l'animal de compagnie a une place dans la famille qui est une place particulière. Il est devenu progressivement un membre à part entière de la famille. Les vétérinaires voient de plus en plus souvent, par exemple, vous savez, de jeunes couples qui adoptent un chien avant même de penser à avoir un enfant. Il y a des personnes âgées qui ont parfois pour compagnon et pour seul être vivant à laquelle ils parlent des animaux. C'est ainsi que notre société, c'est ainsi que la place de l'animal de compagnie évolue au sein des familles. Et donc, il y a effectivement des Françaises et des Français qui, de plus en plus nombreux, pensent à être inhumés avec leurs compagnons avec lequel ils ont partagé leur vie, parfois pendant 10, 15 ou 20 ans.
Mais ce que je saisis mal, Monsieur Dombreval, c'est qu'on ne décède pas au même moment que son animal de compagnie. Donc, si on en est enterré avec son animal de compagnie, par définition, c'est qu'il est mort avant vous. Mais qu'est-ce que vous faites entre le moment où le chat ou le chien est mort et le moment où vous-même vous décédez ?
Eh bien, aujourd'hui, la situation, c'est que de plus en plus de personnes également, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées avant, font incinérer leur animal de compagnie. Leur animal de compagnie meurt souvent, enfin, en tout cas dans des proportions qu'il est difficile de connaître, mais enfin, peuvent mourir avant le propriétaire. Mmh. Et auquel cas, les cendres de l'animal sont conservées. Et c'est là que la difficulté commence.
Parce que là, on peut pas aujourd'hui se faire enterrer avec les cendres de son animal, c'est ça ?
Non.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites de l'animal ? Alors, l'animal est mort, vous l'empaillez, vous en faites quoi pendant...
Non, on l'incinère.
On l'incinère.
Oui, je viens de vous le dire, effectivement, il est incinéré. Et ces services d'incinération, aujourd'hui, ont une activité qui est une activité absolument croissante également, de plus en plus importante. Donc, les cendres de l'animal sont dans une urne, mais il est impossible, au moment de l'inhumation du propriétaire, d'être... De partager le caveau. Excusez-moi, c'est un petit peu triste, un petit peu glauque tout cela, mais c'est la vie, d'une certaine façon. Et ben, il est impossible d'être inhumé dans le même caveau que l'urne de son animal de compagnie.
Évidemment, ce serait toujours sous cette forme-là qu'il l'accompagnerait, celui qui s'en va. Mais on peut aussi avoir un peu de distance et de dérision et dire qu'il y a peut-être autre chose en France à faire que de proposer une loi comme cela et que les gens qui proposent cela... Est-ce que c'est bien utile, est-ce que c'est bien important de vouloir être enterré avec son animal de compagnie ? Vous voyez, on peut aussi prendre ça avec, en se disant c'est n'importe quoi.
Oui, c'est votre droit. C'est le droit de tout.
Non, je dis on peut, je ne dis pas que c'est ce que je pense, mais j'imagine les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent mais enfin, c'est peut-être n'importe quoi.
Auquel cas, il faut dire à ces gens qui ont des animaux de compagnie avec lesquels ils entretiennent une relation. Amicales extrêmement fortes, qu'ils sont ridicules. Et c'est, je pense, exactement le contraire. Cette relation, encore une fois, entre l'animal de compagnie et l'être humain, est une relation extrêmement forte. Une relation d'amour, parfois. On peut en rire, on peut en sourire, mais c'est une réalité. Et elle est de plus en plus fréquente.
Merci en tout cas Loïc Dombreval d'avoir été en direct avec nous, député, je le rappelle, LREM des Alpes-Maritimes. Bonne journée.
Merci.
Et on va poursuivre évidemment le débat avec les auditeurs. Est-ce que vous avez envie de vous faire enterrer avec votre animal de compagnie ? Ça vraiment, j'aimerais bien avoir un auditeur ou une auditrice. Je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie.
J'ai un chien.
Bon, je ne sais pas si vous envisagez...
J'avais pas du tout
Dieu
pensé
ne plaise,
à
le plus
ce
tard
genre
possible,
de choses-là.
Bien évidemment, il est 12h57. On parlera également des quotas. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui peuvent vous intéresser. Les quotas pour les femmes, on en a parlé tout à l'heure. À tout de suite.
RTL Midi.